Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la quotidienne, le magazine de la bonne soirée, le rendez-vous de toute la scène française qui se précipite chaque jour de 22h à 23h au studio 621 de la Maison de la Radio. C'est facile à trouver, c'est le seul studio éclairé le soir, plein feu comme dans une pizzeria. Ce soir, ils sont deux à table derrière leur micro. Gaël Faye, bonsoir.
Bonsoir.
Vous signez un nouvel album qui sort aujourd'hui même, une sortie maintenue en plein confinement comme un acte de désobéissance à la hauteur de ce que raconte ce titre Lundi Méchant. On vous dit tout dans quelques instants. À vos côtés, Erwan. Bonsoir, Erwan.
Bonsoir.
Avec sa casquette, toujours la casquette. Hein.
Oui, bah, j'ai pas beaucoup de cheveux.
C'est pas une excuse. Erwan, c'est un son à part depuis 20 ans, depuis son groupe Java. Erwan, c'est le parrain du rap musette. Beaucoup copié, jamais égalé.
Ah,
grand retour aujourd'hui avec un nouvel album, La Gouache, pour une palette qui déborde de sons, Maloya, jazz éthiopien, le tout teinté d'une conscience sociale explosive. Et vous, Marion, on va sortir du studio avec vous.
Oui, on va aller dans l'appart vide de la chanteuse Suzanne. Sa tournée, sa réédition de son album ont été repoussées en 2021, mais elle se venge avec une nouvelle chanson à découvrir d'un côté Club.
Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
C'est pas si facile hein, de parler avec un masque. Vous avez déjà chanté avec un masque, Gaël Faye?
Ah non, non.
Non, pas encore.
Non, pas encore. Non.
Ouais, parce qu'ici, avant, il y a quelques semaines, quand on avait des chanteurs en live, on les faisait chanter avec un masque.
Ouais. Ah, heureusement que vous m'avez pas invité.
Vous vous connaissez tous les deux, Erwan, Gaël Faye?
Oui. On s'est rencontrés, on habite dans le même quartier.
Ouais. C'est pas vrai?
Voilà,
ouais. Ici à Paris?
Ouais. Ah ouais. Ouais.
Voilà, mais on se connaît pas bien.
D'accord.
On va faire plus ample connaissance.
Ouais. C'est beau quand même la maison de la radio le soir comme ça, non, Erwan?
Bah ouais, moi ça m'a donné une occasion de sortir de chez moi, j'avais une excuse, donc c'est très bien.
Vous avez une attestation pour venir?
Non, j'ai mon imprimante marchait pas.
Ah d'accord, ok. Ouais. Et vous, Gaël Faye?
Ouais, pareil, j'ai pas d'imprimante.
Je vous félicite. Marion, elle en a une, elle pouvait aller chez elle, si vous habitez dans le même quartier.
Pas très loin.
Tous les deux, vous sortez en ces temps difficiles, chacun un album, il n'y aura pas de tournée avant 2021, les grands festivals sont peut-être compromis. Vous avez mis chacun en place une stratégie, une ligne de conduite, de quoi penser l'avenir, Gaël Faye?
Pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai des projets artistiques, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de continuer à faire de la musique, mais après effectivement, le fait de pas faire de la scène, ça pose beaucoup de questions, et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je m'inquiète surtout beaucoup plus pour toutes les personnes, les tourneurs, toutes les équipes techniques qui travaillent avec nous. Parce que bon, nous, enfin, en tant qu'artistes, on peut continuer de créer et puis essayer de trouver plus ou moins des façons d'apporter notre art auprès du public. Mais pour tous ces métiers-là, c'est assez inquiétant.
Oui, ça va jusqu'aux attachés de presse. On en parlera peut-être plus tard avec Marion. Et vous, Erwan, vous avez une stratégie?
Non, je navigue à vue, quoi.
Tous les deux, vous avez, dans les entretiens, dit sous le mode de la plaisanterie, s'il fallait le faire, même, j'irais faire des concerts dans les appartements, dans la rue, des concerts clandestins.
Bah oui, avant, je me plaignais que j'en faisais trop, puis là, on est comme des lions en cage, quoi. On rumine, ça fait du mois.
Ah oui, oui, moi, je pense que ça va être un peu comme la prohibition, c'est-à-dire que si tout ça dure trop longtemps, il va se mettre en place des nouveaux réseaux un peu confidentiels. J'en ferai partie.
Et vous en ferez partie. Et vous, Erwan,
ah ouais,
aussi.
Bien sûr.
J'ai l'impression.
Ouais, ouais.
Alors, cette crise est un moyen de rebattre les cartes. En tout cas, c'est ce que vous pensez, Erwan, parce que j'ai lu cette déclaration. Je pense que tous ceux qui se cachent derrière un autotune, un son au marteau-piqueur, des semi-remorques de lumière, des décors à la romaine, vont se sentir vraiment tout nus quand il s'agira de faire un guitare-voix devant 300 personnes assises et masquées. C'est peut-être une chance pour la musique.
Non, mais je l'ai fait parce qu'on a fait un festival cet été au Cabaret Sauvage où justement on était vraiment tout nus devant les gens masqués et il y avait une écoute de la musique, donc c'était autre chose. Moi, du coup, j'ai monté un duo accordéon voix parce que ça sert à rien d'essayer de faire danser les gens et de mettre du gros son s'ils sont devant obligés de rester assis. Donc on essaye de s'adapter. Après je dis ça parce que j'essaye de voir le verre à moitié plein, mais non, ça me désespère ce qui se passe et j'espère qu'on va pouvoir remonter sur scène, en tout cas trouver des moyens de jouer et comment on va s'adapter, mais en tout cas on essaye de trouver d'autres choses.
Vous avez signé chacun la pétition du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui s'élève contre la décision de penser la musique, de penser les albums comme des biens non essentiels.
Delphine.
Oui, enfin moi je trouvais que c'était un peu fort de café cette histoire-là, surtout dans la symbolique. C'est-à-dire que je peux comprendre effectivement que là on est dans une pandémie et qu'il y a des décisions qui doivent être prises et donc ça c'est pas ça que je remets en question, c'est simplement que dans les symboles politiques de mettre de nous dire que la culture n'est pas un produit de nécessaire, c'est terrible en fait comme message. Je pense qu'il aurait quand même fallu émettre une nuance, dire voilà, la culture c'est un produit de haute nécessité et donc on va peut-être essayer de voilà de
non c'est vrai que c'est terrible de par exemple de dire d'avoir de grands discours après les attentats, dire de parler de liberté d'expression etc, et puis derrière de fermer les librairies, c'est pas un truc de bobo de dire fermer les librairies, c'est des symboles. En politique on doit avoir des symboles forts, et j'ai l'impression moi que la classe politique, les gens voilà, navigue à vue, mais il y a aucune réflexion à long terme, et on est toujours dans une espèce de truc de l'émotion. Et alors ça s'est multiplié par le pouvoir des réseaux sociaux, qui est tout le monde réagit comme ça, et on n'a pas, alors que le métier de politicien justement, contrairement au métier d'artiste où nous on doit justement être pas gérer nos émotions et en donner etc, et on doit avoir une vue, quelque chose d'historique, et quand on parle de symboles fort, justement comme ils l'ont fait avec l'histoire de Macron, avec les attentats, derrière fermer les librairies, c'est nul quoi, c'est pas à la hauteur.
Je suis vraiment d'accord.
Je vous ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous aviez une prise de position très nette, hein, face caméra, vous dénonciez justement la fermeture des librairies en appelant justement à la symbolique de ce que ça pouvait représenter, d'autant plus ici en France.
Oui, en plus je pense que la France est un pays particulier par rapport à la culture, c'est quand même un pays qui fait rêver le monde entier. Enfin, moi, même quand j'étais dans mon Burundi natal, je me souviens comment on parlait de la France. C'était le pays non seulement des droits de l'homme, mais de la culture, de la littérature. Et donc, d'un coup, quand on a des images, enfin, moi, cette image, je sais pas si vous l'avez vue, mais avec des grandes banderoles dans des centres commerciaux où c'est écrit interdiction de vendre un livre et un disque.
C'est fou.
C'est fou d'avoir ça en 2020. Enfin voilà, je pense que c'est les symboles qui comptent. Donc et puis, je veux dire, on sait très bien que les libraires peuvent très bien gérer un par un client. Enfin, il y a plein de moyens. C'est simplement que là, il y a encore une occasion ratée, et il y a une contradiction qui se fait, qui est très grande, parce qu'on nous parle de l'obscurantisme qui grandit dans la société, et au même moment, tout ce qui apporte la lumière, on le ferme. Donc,
On va tout de suite écouter un premier titre. Lundi méchant, c'est le titre de l'album. Peut-être avant de l'écouter, on rappelle le concept de lundi méchant, parce que c'est quelque chose de très particulier dans une culture.
C'est à Bujumbura. Il y a un club qui s'appelle le 5 sur 5, et les gens sortent le lundi comme un pied de nez aux conventions de la société. Et ils sortent en boîte de minuit jusqu'à l'aube, et ils disent on va pas attendre le week-end pour s'amuser. Et ça, c'est un peu une mentalité de rebelle.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est pluvieux.
Comme un lundi. Comme un lundi, un lundi méchant.
Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inventéré et chauffer, chauffer, va t'entendre les pulsations dans tes tympans, oh. Chanter, chanter, c'est comme encore écouter, goûter l'animation
comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi méchant.
Un lundi méchant, un vendredi à la Maison de la Radio. L'album sort aujourd'hui, un deuxième album de lutte, d'espoir aussi, totalement connecté à ce qu'on peut vivre, à ce que vous vivez entre la France, le Burundi. Je vais parvenir sur votre histoire, sur le parcours, le génocide des Tutsis en 94, 1 million de morts, 2 millions de déplacés, 800 000 orphelins. Je parle de ça quand même parce que, en fait, l'album se termine sur une chanson, un titre, Kwi Buka. Avec ce refrain, je rêve de vous. D'abord, qu'est-ce que signifie le titre et vous rêvez de qui dans cette chanson?
Kwibuka, c'est en Kinyarwanda, et c'est donc la langue du Rwanda, et ça veut dire se souvenir. C'est aussi une période qu'on appelle la période de Kwibuka, c'est une période de commémoration d'avril à juillet. Qui correspond aux 3 mois qu'a duré le génocide. Et donc, c'est ce souvenir de ceux qui nous ont quittés. Et je rêve de vous. C'est un message
qui s'adresse à qui, alors?
Ça s'adresse à tous ceux qui nous ont quittés. Pour moi, personnellement, ça s'adresse à ma famille, ça s'adresse à mes proches qui sont partis, durant ce printemps 94, qui ont été tués parce que Tutsi. Et je rêve de vous, c'est une manière de leur dire qu'ils sont toujours là et que leur vie se prolonge aussi toujours en nous.
Alors c'était un deuxième album, je lisais aussi en réaction à ce que vous avez vécu pour le premier roman, hein, Petit Pays, vous vous souvenez tous, hein, 1 million d'exemplaires rien qu'en France, traduit partout, que vous avez vendu d'ailleurs partout dans le monde. En quoi cet album est-il en réaction à cette période, Gaël Faye?
Disons que c'est pas en réaction, mais c'est-à-dire que j'ai passé 3 ans incroyables et très intenses, et je suis allé présenter cet album partout.
Comme un VRP.
Un petit peu, ouais, c'était un peu ça.
Bah oui, au bout d'un moment, c'est ça. Hein. Ouais, c'est la vie des gens qui ont aussi le Goncourt, ouais, hein, ils racontent tous la même chose.
Voilà,
hein.
C'est ça. Et puis, bien sûr, il y a une excitation parce qu'à chaque fois, le roman sortait dans un nouveau pays, mais bon, 43 pays, ça fait beaucoup. Et donc, à un moment donné, je me suis usé parce que finalement, on redit toujours la même chose. Hein. Et on a beau changer de latitude, il y a des questions très récurrentes.
Bien sûr.
Et comme ce roman était assez lié à ma propre vie, j'ai beaucoup parlé de moi et donc j'avais un trop-plein de ma personne. Et cet album, voilà, j'ai voulu un peu m'éloigner de ma vie personnelle.
Pour l'ouvrir donc ouais. À ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Comment s'est passée l'écriture de cet album justement? Est-ce que vous aviez pas peur d'être, je sais pas moi, en panne après avoir écrit ce roman et après avoir traversé 3 années où vous ne parliez sans cesse de ce texte?
Oui, j'étais en panne. Non, j'étais vraiment en panne. Je me sentais vide. C'est comme si j'avais plus rien à dire. J'imagine, tous les artistes vivent ça, mais il y a un moment donné, je me suis dit, en fait, je pense que j'arriverai plus jamais à écrire une chanson de ma vie. Ça y est, j'ai tout dit, c'est terminé, ciao. et puis, en fait, il y a des techniques. C'est marrant, mais je pense que pour créer, il y a toujours des techniques. Et quand on bute sur une manière de faire, il faut essayer de la contourner. Et moi, j'avais l'habitude d'écrire avant de faire la musique.
Ouais.
Et là, j'ai simplement fait de la musique. Et puis ensuite, j'ai fait des yaourts, j'ai rencontré des gens, et puis les mots sont venus petit à petit.
C'est exactement ce que nous racontait hier Dominica, qui lui aussi a changé pendant le confinement, parce qu'avant, il écrivait d'abord les textes et ensuite la musique. Et là, il a commencé par la musique et il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien chanter sur ça? Donc c'est exactement cette technique que vous avez mis en place,
ouais,
vous aussi.
Tout à fait. Ouais.
Vous avez connu ces moments de doute aussi, Erwan?
Tout le temps, oui. De doute, oui, oui. Mais après, pour la musique, moi, j'ai toujours fait le contraire. Je pars toujours de la musique et j'écris par-dessus. parce que j'ai commencé la musique en faisant du reggae, chanter en anglais, et après j'ai essayé d'adapter le français. Je voulais faire de la musique plus de crooner. J'étais fan de Gregory Isaac et je voulais. Et comme j'avais pas la voix, j'ai dû écrire et je suis venu au rap après et à la chanson. Et donc j'ai toujours, je suis toujours parti de la musique parce que la langue française c'est une langue qui a pas beaucoup de rythme et je préfère faire des yaourts d'abord, essayer de coller et puis de pour donner plus de, surtout dans le genre de musique que je faisais, pour qu'il y ait du rythme et pour que ça sonne.
Ça fait écho aussi, hein, cette histoire de rap et chanson. D'ailleurs, on le voit dans cet album aussi, Gaël Faye.
Oui, c'est ça. Bah, ça, c'est une vraie technique, je trouve, de chanteur. Parce que c'est assez récent, hein, que dans le rap, on se mette à faire des, ce qu'on appelle les top lines et tout. Ouais. Avant, vraiment, c'était le texte qui primait. Et d'ailleurs, je trouve que quand on écoute le rap des années 90, il est un peu plus monotone que ce qui peut se faire aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des techniques de chant, même chez les rappeurs. Enfin, et puis les rappeurs utilisent beaucoup plus le chant qu'à l'époque.
Lundi Méchant, l'album arrive 2 ans après votre victoire de la musique en tant que révélation scène. Et j'imagine quand même que c'est une revanche par rapport à ce qui s'est passé pour le premier. Le premier album, on se souvient, ça c'est Pili Pili sur un croissant au beurre. Oui. Et je lisais dans un entretien que vous saviez que normalement cet album, vu comme il était fait, il aurait dû exploser, ce sont vos mots, il déchirait sa race. Mais les gens du label n'ont rien compris, il était trop complexe pour eux. Ça a été difficile d'imposer ça à ce label?
Oui, en fait, enfin, je pense que effectivement, j'arrivais avec une histoire qui était dense, très riche, avec qui était, enfin, c'est moi, j'ai peut-être fait un très mauvais choix à ce moment-là, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une grosse industrie musicale et qui était pas faite pour ce type de musique-là. Et donc j'ai essayé de trouver un équilibre, mais qui n'a pas marché, qui ne pouvait pas marcher.
Donc ils vous ont foutu à la porte. Mais ensuite, quand le roman est paru, qu'il y a eu du succès, ouais, comment ils ont fait? Ils ont dû se dire putain, on a raté Gaël Faye, quoi.
Je sais pas, non pas, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais disons qu'en tout cas moi, je suis ressorti de cette expérience assez frustré. Avec, je me suis beaucoup questionné sur même mon envie de continuer en fait la musique. Je savais que j'allais continuer à faire des chansons, à écrire, mais pas sous cette forme-là, pas en m'entourant de labels, enfin toute l'industrie musicale. Et donc il y a eu un passage où je suis plutôt allé vers les théâtres. J'ai travaillé avec des gens du théâtre.
C'est comme ça que vous avez été d'ailleurs révélation scène. Hein.
C'est ça. Ça m'a beaucoup aidé parce que finalement ça m'a redonné le goût simplement au spectacle et à des choses plus simples, et je me posais moins de questions de tout ce qui concerne parfois l'industrie musicale, que ce soit les singles, on rentre en radio, des choses comme ça.
On en parlera tout à l'heure avec vous, Arwan, aussi par rapport aux problèmes au label. Alors on va entrer dans cet album, notre réalisateur Stéphane Le Guenec l'a bien écouté et il a tiré une ligne de force, un mix bien ventilé, inspiration, respiration, c'est le mix en 2 minutes.
Je peux plus respirer, leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer. Le réel est violent comme une jungle à Calais, un Congo, océan, tant d'offenses à laver. J'essuie les crachats, j'arrache des murs de France, les sourires banania, et nos enfants qui viennent seront dignes et debout. Debout.
Ce soir c'est la pression, je vois le réel de trop près, les insignes des agents. Au sol nos silhouettes à la craie, j'ai beau fermer les yeux, je ne m'échappe jamais du ciment, et au loin le chant des sirènes ne vient jamais de l'océan. Respire, respire.
Mets du sel dans ta vie, tant mieux, bébé. Je mets du pili pili. Je fais danser les jeunes et les vieux, comme le slap bendabilili. Chez nous, y a pas de tube de l'été. Non, toute l'année c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie.
Oh, fais-moi tourner sous mes pas. Glisse les années, toi et moi. Jusqu'au bout des mers, on pourra chalouper, chalouper, chalouper.
Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On
on se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Poésie muselée, je cherche l'oasis dans ce désert désolé. Et toi, t'es une étoile étiolée. Ton ciel est délavé, ton soleil délabré. Tu tournes en rond, ouais, tu tournes en rond comme un triste vinyle. Bah ouais, ouais, tu tournes en rond. Viens dans mon lagon, j'y ai planté quelques îles. Respire. C'est cool, ma jeunesse c'est cool. Entre murs qui tombent et deux tours qui s'écroulent. Ouais c'est cool, ma jeunesse c'est cool. Entre murs qui tombent et deux tours qui s'écroulent.
Comment revisiter un album en deux minutes, ça vous a plu?
Ah ouais, ça m'a
plu. C'est pas
plu.
Mal, avec la respiration
beaucoup.
De Respire.
Ah, génial.
Ah, c'est signé Stéphane Le Guenet. 14 titres pour ce lundi méchant. Je vous ai vu danser, lever les bras sur Chaloupé, Chaloupé, Erwan.
J'avais envie, ouais, bah ouais.
C'est pas mal.
J'ai envie de sortir en boîte, là.
Ouais, mais non, c'est raté.
Ouais, c'est raté.
La première chanson écrite qui va donner le là à l'album, c'est laquelle?
Ça se joue entre Chaloupé. En fait, il y avait l'instrumental de Chaloupé. J'étais sûr que j'allais l'apprendre. Cette musique-là, elle m'a accroché. Et puis, c'est Respire, le premier texte que j'ai pu écrire et qui était un peu finalement un état des lieux de comment j'étais à ce moment-là. Ouais.
Ça va mieux.
Voilà, oui, ça va mieux.
Ça va mieux. Alors, mais bien sûr, il y a une dimension qui m'a particulièrement intéressé. C'est plusieurs chansons qui traitent, eh bien, du problème du racisme. Je pense à Lueur. Quand on ouais. l'écoute, on pense bien sûr à Black Lives Matter.
Tout à fait.
À l'assassinat de George Floyd. Ouais. C'est un album de rencontres avec Mélissia Lavo ouais. en guest, Christiane Taubira, dont vous avez mis en musique le texte Seul et vaincu. Et puis, il y a un chanteur activiste pour la cause des Noirs aux États-Unis, Harry Belafonte, qui est présent, qui hante l'album. Il a plus de 90 ans. On écoute ce titre. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. Ce titre, il s'appelle comment?
Jump in the line.
Oh, mais c'est bizarre, il y en a un qui s'appelle exactement de la même façon dans votre album. Qu'est-ce que vous êtes allé voir quand vous êtes allé rencontrer Harry Belafonte, donc 90 ans, chanteur bien sûr dans les années 60, activiste qui a été un compagnon de lutte avec
Martin Luther King,
Sidney Poitier, exactement. Poitier, ouais. Qu'est-ce que vous alliez lui demander?
Qu'est-ce que j'allais lui demander? Ben, j'avais envie de faire une chanson avec lui, et puis surtout j'avais envie de pouvoir discuter avec lui et qui me raconte un petit peu
sa lutte, voilà. Ses combats.
Ouais, exactement. Donc bon, c'était un peu un rêve, hein, c'était un rêve fou. Et il a répondu à mon courrier, il m'a invité chez lui, et c'est enfin simplement une des plus belles rencontres de ma vie, quoi.
Il vous a parlé de la situation actuelle justement,
oui,
aux États-Unis, ouais.
Oui,
quel
oui,
est son
sûr.
Regard.
Ouais, ouais, mais il est. On continue de se parler là. Il y a trois jours, on s'est parlé parce qu'il a écrit un papier dans le New York Times pour l'élection. Donc non, c'est quelqu'un qui est encore très très actif. Et il soutient beaucoup de jeunes militants. Il leur donne des conseils pour la lutte. Enfin, c'est quelqu'un qui continue d'inspirer et qui continue de se battre.
Alors, il doit être inquiet parce que moi, je lisais le Monde, hein, le quotidien, et au vu des résultats, il paraîtrait que Donald Trump aurait progressé auprès des électeurs afro-américains. Il y a 8% il y a 4 ans, et aujourd'hui, 12% voteraient pour lui. Comment vous comprenez cette chose qui paraît très étrange, en fait, aujourd'hui aux États-Unis, de voir le vote des Afro-Américains qui progresse du côté de Donald Trump, alors qu'ils ne font même pas le plein du côté des démocrates.
Vraiment, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas. Il faudrait un sociologue là pour expliquer. Pour moi, ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Autant je peux comprendre que certaines populations blanches aient cette peur de devenir une minoritaire dans quelques années, mais que des Afro-Américains, avec ce qui s'est passé ces derniers temps.
Ouais, en même temps, Donald Trump, il représente bien les Américains.
Tous, c'est ça?
Bah, je vois pas pourquoi. Oui, il y a aussi des beaufs chez les Noirs.
Ouais, c'est
s'il y a un esprit américain, voilà, d'entreprise, il y a un truc un peu viriliste et ça plaît à plein de monde, quoi.
Peut-être.
Comment Trump est-il perçu par Harry Belafonte? Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en raconte?
Ah non, mais je pense qu'il est encore, ils sont encore abasourdis que on en soit arrivé là, parce que Obama était quand même un espoir incroyable, même si il n'était pas parfait, mais en tout cas symboliquement il représentait quelque chose, une avancée, et là il y a eu un recul terrible, donc non, il est très inquiet. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on a parlé de tout ça, il était très inquiet.
Et cette inquiétude, on la ressent dans l'album, même s'il y a quand même une lueur d'espoir, notamment dans les rythmes que vous avez travaillés. Vous restez avec nous tous les deux. Il va falloir attendre avant de retrouver le chemin des concerts, des salles, on l'a dit tout à l'heure, des scènes. Alors juste pour patienter, on se souvient qu'ici au studio 621, Yael Naïm était notre invité en live. Yael Naïm, plus d'un million d'albums vendus à travers le monde, 3 victoires de la musique. Elle délivre son message avec une de ses dernières chansons en français, Attendre, sur France Inter.
Attendre que le ciel nous tombe dessus, que les anges ne nous parlent plus. Puis un jour, on se dit, le soleil s'est enfui. Attendre que le ciel nous sombre dessus, qu'on devienne triste et
signé Yael Naïm, qui était en live justement pour ce titre ici dans Côté Club.
Côté Club, pour écouter chez moi ou dans un club.
Sur France Inter.
Allez, on quitte le studio. On n'a pas d'attestation, Marion Guilbeault.
Non, on n'a pas d'attestation. On va rejoindre Suzanne. Suzanne, c'est une voix, c'est une combinaison bleue, une frange rousse, des prises de position fortes. Sur scène, elle explose tous les compteurs. Victoire, révélation, scène aux dernières victoires de la musique. Premier album, Toi, sorti début 2020, qui marche très très fort aussi. Bonsoir Suzanne, comment ça va?
Bonsoir, ça va et vous?
Très bien. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était dans les couloirs de France Inter, en septembre, et vous pensiez reprendre la route des concerts. On en a parlé. Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que tout a été annulé ou reporté?
J'avais repris un petit peu la route. C'est ça qui était vraiment chouette. Je commençais à enfin retrouver un petit peu ma vie, la scène, le public, même si c'était dans un contexte où voilà, on s'était assis, masqué, mais il y avait une belle énergie. Et malheureusement, tout ça s'est stoppé assez net, un petit peu comme la première fois. J'ai l'impression de faire un petit revival de ce premier confinement. Et du coup, voilà, le Trianon a été reporté, et puis tout le reste. Donc c'est un peu voilà, c'est pas très fun en ce moment au niveau du spectacle vivant. Et ouais. Et j'espère que ça va aller, qu'on va pouvoir de nouveau vite jouer sur scène.
Et là, vous êtes dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre 110 mètres carrés?
Alors non, je suis dans ma salle de bain.
Ah, c'est là que ça capte le mieux.
C'est la réverbe.
Oui, il y a une belle réverbe.
Ouais, ouais. C'est ça.
Donc non, je suis dans ma salle de bain, dans mon 30 mètres carrés à Paris, mais il commence à faire froid dehors, mais bon, tout va bien.
Dans la salle de bain, parfait.
Juste un mot sur les concerts que vous avez pu assurer à public assis masqué. Est-ce que vous aviez adapté quelque chose dans votre concert, dans votre énergie? Est-ce que vous avez modifié des titres?
Non, pas du tout. En fait, je me suis dit que je pense qu'on s'adapte à beaucoup de choses en ce moment, à des masques, à du gel hydro, à beaucoup beaucoup de choses. Et je me suis dit que j'allais pas forcément m'adapter à quoi que ce soit, que les gens étaient là et que le but c'était de pas baisser mon énergie. Au contraire, c'était de pouvoir montrer cette création que j'ai fait en février avec toutes mes équipes, avec le kit complet, avec ouais le spectacle à total quoi. Donc moi j'y vais à fond. Ouais. Alors parfois on dirait un petit peu la seule hystérique qui danse en soirée avec des gens assis autour, mais ça se passe bien et à un moment donné les gens sont là avec moi quoi. Je le sens et en tout cas ils me le montrent, ils me donnent beaucoup aussi. Donc c'était chouette de pouvoir le vivre malgré ce contexte là.
J'imagine. Alors, nouvelle chanson qui sort aujourd'hui, L'appart vide, un titre qui devait accompagner une réédition de votre album. Elle est repoussée, elle aussi, cette réédition. Oui. C'est une chanson qui date de quand? Est-ce qu'elle était prévue sur l'album ou est-ce que vous l'avez composée récemment?
Non, je l'ai composée plutôt récemment. Elle était là un petit peu avant le confinement et c'est vrai qu'elle s'est concrétisée pendant le confinement. Donc voilà, aujourd'hui elle existe et j'espère qu'elle va accompagner les malheureux qui viennent de subir une grosse rupture et que ce sera un petit peu leur Lexomil.
Ouais, c'est une chanson assez intime hein, cette fois, hein, sur un désamour,
oui.
Une relation qui se délite. Et puis c'est un texte qui a écrit pour la première fois à la première personne. Est-ce que ça veut dire que quelque chose s'est décoincé pour pouvoir prendre la parole de cette façon-là chez vous?
Ouais, je pense que j'ai l'habitude de décrire des personnages, d'écrire souvent en tu. Oui. Même si voilà, j'ai toujours un lien avec ces personnes. Là, c'était important, je sais pas, de d'ouvrir sur mon intimité, d'écrire en jeu. Je pense que c'est pas anodin d'avoir écrit en jeu, et c'est venu assez naturellement en fait. Donc je me suis laissée écrire comme ça, et je pense que c'est bien de voilà d'enlever quelques couches parfois, et j'étais prête à le faire. Donc c'était la bonne chanson et c'était le bon moment dans ma vie pour l'écrire. Et voilà, en tout cas, je suis heureuse de l'accueil que le public fait à cette chanson. Je suis très, très émue.
Il y a eu rupture? Ça va mieux?
Ça, c'est Laurent Goumar, hein. Il veut tout savoir, c'est le commère.
Et il est curieux, c'est normal.
Bah,
c'est normal.
Ouais. C'était vous ou c'était
mais
l'autre?
Mais je laisse un trois petits points.
Alors moi, je vous imagine sensible quand même. Vous écriviez avant sur une façon très frontale, très directe. Et je me demandais à quel genre d'écriture vous étiez sensible, Suzanne?
Bah justement, ouais, j'aime bien les écritures assez assez frontales. Virginie Despentes, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup lire. C'est assez frontal, c'est assez brut. Ouais, j'aime ce genre d'écriture qui où les gens comme Brel, les artistes comme Brel ou Barbara, je trouve aussi qu'ils avaient une manière d'écrire qui racontait vraiment bien leur époque, leur décor. Donc ça me plaît ce genre d'écriture.
Faites attention derrière vous, on entend des gouttes d'eau. Je pense que vous avez une fuite.
Alors,
dans votre salle de bain.
C'est le radiateur qui fait, vous savez, les vieux radiateurs des vieux appartements parisiens.
Ouais, je vois.
Qui font des bruits de dingue. J'ai l'impression d'avoir la piscine municipale dans la salle de bain. Je suis désolée, vous êtes avec moi là-dedans.
Ah, mais c'est parfait.
C'est bien, c'est le début d'un rythme.
Ouais,
c'est vrai, ça
vous plaît. Début d'une chanson
pour Erwan. Il y a un truc à saisir.
J'imagine, une dernière question, vous êtes aussi sensible à l'écriture de Grand Corps Malade, parce que quand on écoute votre duo avec lui là pendant 24 heures, c'est un titre qui d'ailleurs sera également sur votre réédition, est-ce que c'était facile de se mettre dans la peau d'un homme pendant 24 heures? Ça a été drôle pour vous?
Oui, ça a été assez marrant. C'est vrai que quand je lui ai proposé ce thème de switcher les genres, on a assez vite écrit, parce que le thème était quand même assez... Ouais, assez rigolo, quoi. Donc ouais, 24 heures dans la peau d'un homme, c'était pas mal. C'était pas mal du tout, mais être une femme, c'est vraiment cool aussi, donc voilà.
Donc vous étiez contente de récupérer la vôtre de peau?
Oui, c'était très bien. Mais en tout cas, Grand Corps Malade, vraiment très heureuse de figurer sur cet album qui est incroyable, mesdames, et ça a été une vraie rencontre. Voilà, vraiment une vraie rencontre, humaine et artistique.
Ouais, c'est ce qu'il nous a dit également quand il est venu dans Côté Club il y a quelques
trop
semaines.
Cool.
Merci beaucoup, Suzanne. Il est temps de découvrir.
Merci à vous.
Ce nouveau titre.
Bon bain.
Voilà.
Merci beaucoup, Laurent.
Non,
merci
une beaucoup. Douche, elle est écolo. Bon.
Exactement, la douche et sans savon avec tout le plastique, etc.
Ah, ben, je vous félicite.
Voilà. La part vide.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Voilà, c'est La part vide. Suzanne, qui sera donc avec trois autres inédits sur votre prochaine réédition, et à très bientôt dans La vraie vie.
À qui tu parles à 3h du mat? Je te vois sourire devant ton écran. Le film a l'air bien mais je suis pas dedans. On s'endort ensemble dans un lit trop grand. En tête à tête je tiens la chandelle. T'as passé la soirée à penser à elle. On se dira bonne nuit comme à la fin d'un mail. Je suis plus la première à qui tu penses au réveil. Je voudrais remettre le film au début. Rejouer la scène où le lit nous voit nu. Regoûter ta bouche pour la première fois. Laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit mais on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? T'as claqué la porte sans me dire au revoir. Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans la porte vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, je vais même plus dehors. Dans la porte vide, y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas d'armée, il fait jour dehors. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Un jour ces questions vont me tuer. Je me fais des films que je veux pas regarder. J'ai le cœur en sang quand je te vois l'embrasser. Je regarde nos photos de couple parfait. Je me sens moins belle quand t'es plus à côté. Je trouve même plus la force de danser quand j'entends notre chanson préférée. Je voudrais remettre le film au début. Rejouer la scène où le lit nous voit nu. Goûter ta bouche pour la première fois. Laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit mais on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? T'as claqué la porte sans me dire au revoir. Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans la porte vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, je vais même plus dehors. Dans la porte vide, y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas d'armée, il fait jour dehors. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Je me sens paumée quand je sais pas où tu es. On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché. Dis-toi aussi tu te sens qu'à moitié. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Un jour ces questions vont me tuer. On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché. Y'a plus qu'une paire de clés dans l'entrée. Dans la porte vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, je vais même plus.
Côté club
sur France Inter.
Erwan, en écho à Suzanne, vous avez déjà écrit des chansons de rupture?
Oh, plein.
C'est vrai?
Non, je...
Non, ils ne me souviennent pas tellement, moi.
Non, mais j'essaie tout. J'arrive pas à écrire des chansons comme ça, premier degré. Enfin, il y en a, si, mais j'essaie toujours qu'il y ait toujours un recul. Bon, il y a des gens qui peuvent le faire, c'est très bien, mais moi, j'essaie toujours quand même de... C'est peut-être par pudeur, mais j'essaie toujours d'avoir un filtre.
Erwan, c'est le grand retour, 20 ans après Hawaï, qui était l'album mythique de votre groupe Java, hein, 3 albums studio avec Java, mm-hmm. Même si depuis vous aviez multiplié les aventures, il y avait la carrière solo en 2006, le groupe Soviet Suprême en 2015, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, mais Java en 2000, l'album Hawaï, piqûre de rappel avec Pépette, le son c'était ça.
T'es fraîche et bien roulée, Pépette, tout le monde te court après, j'arrive toujours le dernier, tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. T'es fraîche et bien roulée, Pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Je fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser?
DL5, vous vous souvenez?
Bien sûr, ouais. J'ai écouté ça en boucle.
Ouais. Et ça passait aussi en
c'est une chanson rupture. Hein.
Ah oui,
mais là, c'est par le fil de l'argent.
Ben, exactement. Voilà. C'est toujours ça de gagner.
C'est toujours ça de gagner, ouais.
Ce son-là que vous avez mis au point, qui a beaucoup été copié hein, par la suite, vraiment...
Mais jamais égalé.
Mais jamais égalé, c'est ce que j'avais dit en début. On aurait dit une sorte de jingle. Donc parrain du rap musette, c'est comme ça qu'on vous a présenté il y a 20 ans. Ouais. Comment vous
parrain
êtes...
du rap, parce que je voulais, j'étais pas dans le rap game, mais parrain du rap, ça fait sérieux, mais musette
rap,
ça,
tout de suite, ça décale.
Ça décale.
Comment vous aviez mis au point ce son il y a 20 ans? C'était quoi l'idée en fait?
Bah, l'idée...
Parce que vous n'êtes pas baigné dans le musette.
Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai commencé la musique en faisant du reggae, des sound systems.
Ah oui.
Et après, j'ai fait du rap. Et le rap, justement, le hip-hop, c'était une... Il y avait plusieurs activités. J'ai fait du tag, du graph et de la danse. Et puis,
avec
le rap, ouais, un peu de...
Vous étiez quoi? Smurfer,
d'accord. Oui.
Oui, pas de coupole.
J'ai fait la coupole.
C'est pas vrai.
Si, le moulin, moi aussi, je faisais le moulin.
Et vous, Gaël Faye?
Non, moi, j'ai jamais réussi à passer la coupole.
Et pourtant je suis doué. Hein. Et donc au début, donc le rap, voilà, il y avait plein de choses, et quand ça a tourné au rap justement game, je me sentais pas. À l'époque déjà, il y avait pas beaucoup de blancs qui faisaient du rap. Puis c'était, moi je viens d'un milieu plutôt aisé, donc il y avait tout un discours de ghetto que donc je me retrouvais pas dans ce discours. Et j'avais des textes, j'avais commencé à faire des albums, et j'ai rencontré Fixie que je connaissais déjà, ouais, mais qui sortait du métro avec un accordéon. Et j'avais écrit un morceau sur les stations de métro, et je lui dis viens, on essaye de faire ce morceau. Donc c'était le premier morceau, c'était un morceau qui racontait une histoire qu'avec des stations de métro, et on a mis l'accordéon, on s'est dit tiens ça, et on a commencé à faire 2-3 maquettes, et à l'époque c'est allé assez vite, on signait des groupes
ouais, et puis,
à tour de bras,
et c'est comme ça que ça a commencé,
et voilà, et ça a commencé, et j'ai commencé à devenir à faire de la musique mon métier avec ce groupe.
Mais revenir sur ce son aujourd'hui, alors que c'est plus du tout dans l'air du temps, c'est quoi? C'est un acte
non,
de résistance?
Non, c'est mon 10e album. J'ai fait de beaucoup, donc j'ai fait 3 albums avec Java.
Hein
là, on va se reformer, on va faire des tournées cet été. Mais je voulais, ça faisait longtemps que je voulais, comme c'était un genre qu'on avait inventé et que j'ai fait 4 albums solo où je suis parti dans d'autres styles complètement différents. Et j'avais envie de réutiliser l'accordéon, voilà. Et puis c'est vrai que c'est une réaction. C'est-à-dire j'avais envie de faire un album qui soit au contraire de l'air du temps. C'est toujours, les albums partent toujours par des réactions. Là, je me suis fait remercier dans le label dans lequel j'étais.
Pour Curling, c'était le dernier album
Curling
solo.
Qui était plutôt un bide, donc, mais qui était un bon album, moi, je trouve. Et
ils vous ont pas soutenu.
Voilà,
ils m'ont
gentiment dit que ce qu'ils privilégiaient maintenant, c'était la pop urbaine. Donc, les sons de pop urbaine, tous les sons, etc. Donc, moi, je me suis dit, bah, alors, faut que je fasse de la pop rurale. Enfin, faut que je trouve un. Et donc, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Jean Lamotte, qui avait mixé tous les albums de Java, et qui est quelqu'un qui travaille le souffle, qui travaille justement, qui essaie toujours de pétrir, de faire sa matière avec les sons, et contrairement au truc électro où on va chercher des sons qui existent déjà, il fait toujours venir plein de musiciens et il fait ça, c'est comme un sorcier quoi, il prend cette matière. C'est quelqu'un qui a bossé beaucoup avec qui a fait les albums de Noir Désir, Bachung, justement un album comme L'Imprudence qui est un album magnifique où il travaille la matière comme ça, qui a bossé aussi beaucoup en musique africaine, musique malienne avec Salif Keita notamment.
Qui est présent sur l'album.
Voilà, qui est présent sur l'album, grâce à lui. Et on a fait cet album. Donc moi, je prends des beatmakers à chaque fois. Et puis après, j'ai rajouté plein d'instruments.
Eh bien voilà, un pied de nez donc à ce label qui vous a gentiment remercié.
Non, mais je les remercie parce que ça donne toujours... C'est,
le
voilà, la vie, c'est voilà, le contre-pied.
On écoute tout de suite la chanson qui donne son titre à l'album, La Gouache, autoportrait en chanteur vindicatif.
Parce que c'est là qu'est l'étier. Parce que je préfère me cramer dans les clubs que passer à la télé. Parce que je rentre pas dans ta catégorie. Je passe du comique à la tragédie. Parce que j'emmerde Léon dit ta street credibility. Je suis bien trop libre pour ton petit esprit. Appelle-moi clown, pitre, bonzo, chien, vaurien, comique, animal de cirque, camelon, loser, battleur, prank, poissonnier, blanc bec, saltimbanque. Je suis pas dans l'air du temps, ni pute, ni soumis. C'est sur scène chaque soir que je rejoue ma vie. Je reviens à la hache avec mon panache, et j'ai la gouache. Quand les tons se resserrent, je fais un appel d'air. Quand je fais un appel d'air, je vois les bras en l'air. Les bras en l'air, faites trembler les murs. Faites trembler les murs. Je me cogne, je me crache, je me clash, je m'éclate, je me frappe, je m'en tape, je me palafre, esquinte, rinque, éreinte, fin délire. Je suis pas en train de chien, juste en train de bouillir. Entre fou, peur, rage et aigreur. Entre béton et plâtre, entre chanson et rap. Entre le fond, la forme, l'animal et l'homme. Entre sous-sol et la lune, l'alcool et la thune. Entre loose, réussite, la diète, la cuite. Entre l'envie de bien faire et l'envie de me foutre en l'air. Entre le cul qui m'appelle, l'envie d'être fidèle. Entre le caniveau et le ciel. Entre l'enclume, le marteau, moi, mon ego. Entre le trou noir et le chaos. Je reviens à l'arrache avec mon panache. En
contre la scène publique. Je rajoute la fin tragique entre colère et espoir. Parce que je suis pas dans ta casse, je fais pas ton buzz, je suis pas dans ta clique de nard. Parce que je rêche, que je fais pas de lèche, je vends pas mon dergé. Ma musique est une recherche. Parce que je gagne ma croûte au charbon comme un paysan. Je trace mon sillon parce que je suis toujours le même. Et que c'est toujours les mêmes qui me passent devant. Les mêmes tartuffes, les mêmes vendus, les mêmes escrocs sur nos écrans depuis 30 ans. Parce que la vie est brève, je donne ma sève sur scène jusqu'à ce que j'en crève. Je reviens à l'arrache avec mon panache et j'ai la gouache. Quand les tours se resserrent, je fais un appel d'air. Quand je fais un appel d'air, je vois les bras en l'air.
La gouache signée Erwan, j'ai l'impression. Ouais, voilà, ouais. Bah, tout de suite, on le sent bien. On sent que ça, en concert, ouais. C'est vraiment le titre qui devrait tout défoncer.
Voilà,
bah, les bras en l'air, fait trembler les murs. Non, mais
en
c'est
fait,
vrai,
c'est un morceau de concert,
quoi.
Bah, voilà.
Oui, c'est
mais
ça.
Généralement,
je l'ai vu deux, trois fois sur scène. Il faut voir Erwan sur scène, de toute façon, c'est absolument dingue.
Ah, bah, merci.
Absolument dingue.
Mais oui, c'était pour ça que j'ai appelé l'album la gouache aussi, parce qu'avec ce morceau, mais c'était généralement, on n'arrive pas à retranscrire sur disque l'énergie du concert. Donc, j'ai toujours fait des albums où c'est plus posé, etc. Et puis là, j'avais ce morceau-là qui traînait en plus depuis longtemps parce qu'on l'avait joué en concert. D'ailleurs, on devrait faire le contraire, mais généralement, on fait les albums et après, on va les jouer en concert.
Ouais, mais alors qu'en fait, on les chante beaucoup mieux. Hein, de plus en plus.
Ouais. Mais, et donc, l'idée, c'est la gouache, c'est qu'aussi l'album, il y a plein de couleurs, ça part un peu dans tous les sens.
Dans tous les sens, on verra. Il y a du Maloya, du jazz éthiopien, il y a Salif Keita, enfin, c'est vraiment... Et il y a même la dimension crooner avec une reprise de CRS Méloman.
Parce que j'aurais rêvé d'être un crooner, je voulais être un chanteur.
Piano, violon, on écoutera ça tout à l'heure si on a le temps. Gaël Faye sur ce titre.
C'est... Non mais je trouve que tu as réussi quand même à restituer l'énergie de scène de live comme ça sur ce morceau-là parce qu'effectivement c'est très compliqué de faire ça. Et là je trouve quand même qu'on le ressent quoi. On a presque l'impression qu'on est en live.
Exactement, tout à fait.
Parce que ça te manque aussi.
Non. Là, je sors de studio, donc je vois très bien les difficultés de mix, de choses comme ça.
Vous étiez en studio ?
Bah, j'ai passé tout mon été à
Ah bah oui, d'accord, bien donc, sûr, pour l'album.
J'ai l'impression d'y être encore.
Alors, quand on regarde le titre, parce que certes, c'est un titre de concert, mais ce qu'il raconte, c'est pas si facile que ça. J'ai la gouache entre colère et espoir, parce que je suis pas dans ta case, que je fais pas ton buzz, que je suis pas dans ta clique de naze. Toujours les mêmes qui me passent devant. Plus loin, dans une autre chanson, hashtag ta gueule, c'est je suis pas dans l'air du temps, je suis pas dans la place. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été mis à l'écart?
Non, j'aime bien, c'est une situation si confortable de se dire ça. Mais j'ai pas le sentiment d'être mis à l'écart. Là, c'est quelque chose. C'est un texte qui est brut pour retranscrire le concert et que voilà.
Ouais, mais ça revient dans pas mal de
colère
quand même.
Non, mais je pense que je l'ai cherché aussi. Moi, l'idée, c'est de. J'ai la chance de gagner ma vie avec la musique.
Donc, tourner partout dans le monde.
Voilà, de tourner. Donc le truc des médias, etc. C'est un plus. C'est pas. Je cherche pas ça et j'ai déjà beaucoup de chance de faire ça. Après, dans la gouache, il y a l'idée aussi du panache et de l'idée d'être indépendant, comme à Cyrano de Bergerac, quoi, ne pas monter bien haut, mais seul, quoi. Voilà, ce truc-là.
Alors, c'est quand même aussi un album en colère. Il y a un jeu de massacre. Hein, vous tirez à vue sur pas mal de choses. Dans Hashtag ta gueule, c'est la chanson que j'adore d'ailleurs. Ouais. Les révolutionnaires des réseaux sociaux qui donnent leur avis, qui.
C'est le problème, c'est qu'on est tous dans ces réseaux sociaux, surtout en musique.
Vous n'avez pas le choix, hein, de toute façon. Vous êtes musicien autoproduit. Si vous ne passez pas par les réseaux sociaux, ça ne marche pas.
En fait, ça rend fou. Et c'est un espèce d'entonnoir, c'est le nouveau café du commerce. Sauf qu'avant on pouvait dire des conneries, ça sortait pas du café, mais maintenant ça reste et tout le monde s'exprime et c'est un enfer pour le débat, même pour la politique, pour tout. Et on dit qu'on apprend des choses sur les réseaux sociaux, mais finalement il y a tellement de trucs qui défilent et ben on est tous pareils. Hein. Moi je suis obligé, j'essaie de faire
vous êtes obligé, d'être présent.
Je suis obligé d'être présent. On n'existe pas, un musicien il n'existe pas s'il passe pas par les réseaux.
Gaël Faye, pareil pour vous ?
Ben oui, pareil. C'est vrai que j'ai le même constat. Je trouve ça Il faudrait ne pas trop regarder ça, parce que surtout les commentaires sur ce qu'on fait, parce que je trouve que même pour la création, ça c'est pas forcément bon. Ça nous met parfois des inconforts, des incertitudes qu'on n'avait pas. Ça développe parfois comme ça des. Donc, enfin, moi, par exemple, je sais que je peux pas lire les commentaires. C'est trop pour moi, parce que c'est toujours pareil. 20 commentaires qui sont bons, et il suffit qu'il y en ait un qui n'aille pas, et puis c'est celui-ci qu'on retient. Bien entendu. On sait pas pourquoi. Donc bon, voilà.
Ouais, puis il y a aussi quelque chose. En fait, c'est comme c'est fait par des algorithmes. Il y a des choses intéressantes qui passent de politique, etc. Mais en fait, c'est démoniaque, parce que comme c'est des algorithmes qui on va avoir telle idée, etc. Mais ça va toucher les gens qui pensent exactement la même chose que vous. Donc il y a quelque chose d'immensément frustrant, quoi.
Et moi, les gens qui pensent pas comme moi, je les enlève de mon réseau.
Ouais,
je veux pas les voir. Ouais. Je veux pas qu'ils me parlent.
Mais après, on a trouvé avec Soviet Suprême une autre façon de gérer
Soviet
ça.
Suprême, c'était l'autre groupe.
Voilà, ouais. C'était d'en faire justement un média, comme et de faire des détournements, en fait, de politique, de tout ça, de prendre ça comme si c'était un journal, en fait.
On s'écoute un morceau de Soviet System, allez.
Pour la Soviet Supreme Party, au dance club du Red Army, le one step, two step, high tech, dubstep, en coco discothèque, one map, teaching John Lennon, qui passe une polka Pushkin et Ragararas, Poutine, Silvers, the Stalin swing.
LA, crame le dance floor, kiffe le Kremlin, c'est open door. Viens faire la coupole sur la place rouge, fais le plein de neige et réchauffe ton corps. Mama Zurka, son Pavlova, bois ta vodka dans la Volga, Babushka, classe à vite, sa chérie d'Avaï.
Soviet Suprême, adoré. C'était en 2015 que vous avez mis au point ce nouveau concept de groupe.
Ce groupe qui était une blague au départ, où on devait faire 6 concerts dans les clubs. En fait, c'est né dans ce qu'on appelle les Balkan Beats, qui sont les soirées des Balkans qui sont dans toute l'Europe, qui ont été créées à Berlin. Et il y avait une soirée à Paris, on nous a demandé de jouer avec mon camarade Thomas Fetterman, qui a monté le groupe, qui joue dans un groupe qui s'appelle La Caravane Passe.
Qui est venu ici aussi,
ouais,
il y a peu de temps.
Ici, ouais. Et ça a tellement bien marché qu'on a décidé de monter un groupe. Et comme c'est un mélange d'électro avec les musiques de l'Est, on cherchait un nom de groupe et on s'est dit le point commun de tous ces anciens pays, c'est que c'était des pays soviétiques. Et à partir de là, on a commencé à délirer, on a créé des personnages.
Des personnages, le vôtre c'était...
C'est Sylvester Staline et il y a John Lennon et on fait la révolution du dance floor. Et donc l'idée c'est de penser, imaginons que si l'URSS avait gagné la guerre froide, qu'est-ce que serait la world music? Déjà ce serait pas la world music, ça s'appellerait l'international. Et on a fait un premier album qui s'appelait l'international et un autre qui s'appelle Marx Attack. Et on a créé tout un univers sur scène qui est vraiment pour le coup punk et qui est dans l'énergie pure de la danse. Donc on oblige les gens à danser. Et ce qui est marrant, c'est de retourner aussi l'idée du concert où il y a toujours des bonnes idées, les gens, alors qu'en fait le concert c'est une dictature. Donc nous on oblige, on a un goulag sur scène, on les enferme et les gens sont contents, quoi. Ils en demandent, c'est grand guignol. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette base de départ, on peut faire comme Groland, c'est-à-dire qu'on a un pays de départ et on peut tout détourner, l'actualité, les marques aussi. On a créé une marque. Voilà, là, je dois avoir ça.
Qu'est-ce que vous avez? Ah, vous avez un t-shirt,
Air Max.
C'est
Air Max.
C'est
la marque. Et on peut tout détourner. Donc, c'est comme un pays imaginaire et après, on peut.
Et ça permet surtout, et qui est vraiment votre signature, de toucher à tous les genres de musique. Parce que dans ce nouvel album, vous touchez vraiment à plein de genres. La preuve par 3. Allez, d'abord, bien sûr, l'ADN, le bal musette, Padrino du rap musette.
Ils m'ont fait les poches, ils m'ont trait les loges, saigné comme un veau. Ils m'ont imité, pompé, n'ont jamais été au niveau. Je suis de retour dans le game, mais moi, mon arène s'appelle le bistrot. Padrino du rap musette.
Bon, ça c'est le grand classique, hein. Ça ouvre l'album, c'est le grand classique.
C'était une présentation, puis je voulais me faire un ego trip, comme j'ai jamais été vraiment un rappeur, je suis toujours entre les deux, donc là je me suis dit, et puis j'aimais bien une musique un peu tarantinesque, et puis il y a un truc qu'on faisait beaucoup avec Java, et que j'aime bien faire, c'est rapper sur des rythmes ternaires, des rythmes de valse, ouais. Qui sont pas... au départ les rythmes classiques du hip-hop, mais en fait avec Java pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement fait ce qu'on fait les rappeurs américains avec la funk et le jazz. Nous on l'a fait avec le patrimoine français de musique, mais c'était le même procédé, en fait.
Autre ambiance.
Les humains.
La chanson s'appelle « Des humains » avec Salif Keita, star du Mali. Ça veut dire que vous êtes allé à Bamako, le rencontrer. Aller au Mali, c'était... Enfin, on est dans une situation un petit peu difficile, le Mali, en ce moment.
En fait, je suis pas allé... Au départ, c'est toujours pareil. Ça démarre d'une blague aussi. C'est que je faisais l'album avec Jean Lamotte. Ouais. Et j'avais ce morceau-là qui a été composé par Fixie, qui jouait avec moi dans Java. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien d'avoir un invité là-dessus. Et il m'a dit, bah, attends, il m'a dit, j'ai mixé le dernier album de Salif Keita, on va aller lui piquer les voix, on va regarder ce que ça donne. Et la magie a opéré. Et au départ, on pensait pas en faire un titre, mais on a envoyé à son manager qui a fait écouter à Salif et qui a adoré et qui a dit, ok, je veux bien le faire, mais vous venez, vous tournez un clip. Donc on a essayé d'y aller au mois d'avril, on n'a pas pu, on a trouvé une fenêtre de sortie au mois de septembre, et on a pu aller tourner là-bas. Il nous a reçus.
J'imagine que c'était l'aventure.
Ouais,
toute super. L'aventure est dans cet album. On n'a pas pu encore écouter. Il y a plein de titres, notamment la reprise du CRS Méloman en version crooner. Ben ça, les auditeurs l'entendront chez eux, parce qu'un disque, ça s'achète aussi. Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Gaël Faye.
Merci beaucoup.
Lundi Méchant est sorti aujourd'hui même. Erwan, merci à vous.
Merci.
Je rappelle le nouvel album, La Gouache et Marion.
Gaël Faye sera en concert vendredi prochain sur l'antenne de France Inter avec Luz and the Yakuza et Ichon. Et Suzanne, son clip, sa chanson La Part Vide sont disponibles dès aujourd'hui sur tous les interwebs. Il y a deux concerts à annoncer. Trianon à Paris 29 mars, c'est complet. Rendez-vous le 3 juin à l'Olympia et en tournée dans toute la France en 2021.
Côté Club, c'est Stéphane Le Guenec à la réalisation, Grégory Wallon à la technique. Lundi, on se retrouve à 22h ou d'ici là en podcast avec Gaëtan Roussel, la romancière Lola Lafont et Marion Trévite.
Zoom sur un premier album, ce sera celui de Chasseur.
Allez, Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end.